Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
L'amour est une source inépuisable d'inventions, d'expressions, de vocabulaire, de jeux de mots, et l'être humain n'a jamais ô combien négligé de dire la part animale, parfois même salace, du corps à corps amoureux. On connaît les poèmes érotiques de Ronsard. « Ô petit trou, trou mignard, trou velu, d'un poil follet mollement crépelu. » Ou encore les métaphores amoureuses en argot qui sont si nombreuses qu'on en fait des dictionnaires. Car l'amour est toujours une affaire de mots, comme le prouve cette émission de Marie-Christine Navarro qui, en 1992, consacrait un tire-à-langue au mot de l'amour, de l'érotisme à la pornographie.
Tire-à-langue, de la tradition gauloise à la langue érotique, ou des ébats amoureux au débat des théologiens et des mystiques. Le touffu en ermitage, la boîte aux rêves, le pain des pauvres gens, mais aussi le marteau à boules, la guiguite, la tarte au poil, prendre la porte de derrière, le couloir aux lentilles, etc., etc. C'est ce dont nous allons parler, de la richesse de notre lexique lorsqu'il s'agit de parler d'amour. Avec nos invités d'aujourd'hui, Jean-Claude Carrière, qui vient de sortir un livre, Les mots et les choses, le Pré-au-Clair. Le mot et la chose, vous me reprenez, vous avez raison, les mots et la chose. Et Sophie Bobet, qui est ethnologue et qui a traité des figures du corps, comment est-ce que la femme, en particulier dans notre lande, est cuisinée, mangée. Et nous terminerons par Jemal Eddine Benchir, qui nous parlera de la langue érotique dans la tradition orientale. Mais avant d'en arriver à la mystique, écoutons Philippe Barthelet, qui va nous ouvrir les portes du discours pornographique.
Rebus sic stantibus. La pornographie, comme son nom l'indique, est l'écriture appliquée à la prostitution, et non l'inverse, qui définirait par pléonasme la plus copieuse partie de la littérature courante. On pourrait traduire le mot à la lettre, écriture publique, la publicité qualifiant de même les filles d'autrefois. Cette publicité-là n'a pas de nom, et elle en est même la perte délibérée. Elle use des mots jusqu'à l'insignifiance. Elle ne veut plus rien dire, dans la mesure où elle prétend dire tout. La pornographie est en ce sens un cas particulier d'une tendance vieille comme l'esprit moderne, qui est la haine du secret. Il faudrait tout dire et tout montrer, au nom d'un idéal de transparence qui est ici-bas une curieuse anticipation du monde angélique. L'exhibition atteste l'intention morale et moralisante. Ici, on ne cache rien. Michel Foucault a décrit l'aboutissement de ce rêve de démocratie panoptique, la prison psychiatrique, où chacun est tout à tous, à la fois malade et surveillant. Rien ne serait coupable que le secret, que la pornographie dévoile avec le reste. Mais le reste déteint et réduit l'ensemble à l'anonyme le plus fastidieux. Le secret du secret est peut-être qu'il n'y a pas de secret, rien, en tout cas, que l'on ne puisse dévoiler sans du même coup l'abolir. Camus disait de la pornographie qu'elle est ennuyeuse comme les manuels de savoir-vivre. C'était la replacer dans son registre, celui, très artificiel, de la pédagogie, genre littéraire ingrat entre tous. Le savoir-vivre est d'ailleurs une contradiction dans les termes. La vie ne s'apprend pas, ce qui peut s'apprendre n'est d'aucun intérêt, et tant pis pour les illusions des professeurs. Les choses se passent en réalité tout autrement que dans les manuels, où d'ailleurs elles ne se passent pas. Elles y font tapisserie, en attendant leur achalandage laïque et obligatoire. Le pornographe est en définitive une variété d'enseignants. D'où ce zèle mal ajusté et cette prétention hors de propos à faire la leçon à Eros. lequel ne sait se réduire en formules, méthodes ou figures imposées. Parler d'amour à son lecteur, c'est le comble de la littérature, et la littérature, comme la vie, n'a d'autre raison suffisante que la liberté. Tel est le fameux secret du début, des plus volatiles. Que si, malgré tout, on veut encore tout dire, on pourra suivre l'exemple de Charles-Albert Saint-Grillat, lequel, écrivant à Ramu, lui racontait en latin ses exploits priapiques.
Jean-Claude Carrière, vous venez d'écouter le billet de Philippe Barthelet. Vous avez
J'en
bien
suis scandalisé.
Sûr... Vous avez en tout cas parlé d'amour à votre lecteur et je vous voyais effectivement être totalement en désaccord avec ce qui vient d'être...
Désaccord absolu. Désaccord absolu, sauf sur l'étymologie du mot. C'est vrai, Rétif de la Bretonne a écrit un livre qui s'appelle Le pornographe. C'est celui qui parle, qui s'exprime sur les questions de prostitution. Donc de vie publique de l'amour. Mais en revanche, sur ce qui vient d'être dit de la pédagogie, alors là, je m'élève tout à fait contre, car l'idée que l'amour est un don inné que nous avons et qui ne peut pas s'apprendre est une utopie des plus absurdes. Un homme ne peut pas connaître le corps de la femme, ça ne lui est pas donné, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Il doit avoir des professeurs, absolument.
Et inversement.
Je crois que cette idée que l'amour s'apprend en faisant l'amour est proche de la non-pratique de l'amour. Enfin, il y a quelque
dangereuse.
Chose... Oui, très dangereuse. C'est comme si on disait on apprend l'amour en regardant, les films pornographiques. L'amour est une véritable science. Bien sûr, il n'y a pas que cela. Et ça serait idiot de dire, et personne ne le prétend d'ailleurs, qu'on apprend l'amour en lisant des livres. Mais croire que l'amour ne s'apprend pas, ça c'est une fausseté totale.
Oui, c'est-à-dire que l'amour est marqué par le culturel.
Ah oui, marqué. Non, mais on apprend. Tous les éléments de l'amour s'apprennent et le langage en est un.
Et tous les traités, bien sûr, érotiques.
Je vois que la dame qui est en face de moi hoche la tête en m'approuvant.
Oui. Sophie Bobet...
Oui, moi j'ai rencontré exactement le même thème dans les fêtes de l'ours sur lesquelles j'ai travaillé et où effectivement la fête de l'ours vise à permettre aux jeunes garçons d'approcher le corps des filles ce jour-là et il y a tout un jeu sexuel érotique qui leur permet effectivement de découvrir l'autre.
Une scène d'apprentissage.
C'est une scène d'apprentissage, c'est une forme d'initiation et c'est ainsi que les femmes vont passer d'une catégorie de jeunes filles à celle d'une femme potentiellement épousable, potentiellement aimable ou en tout cas dotée d'une sexualité et pouvant donc pratiquer cette sexualité.
Nous vivons dans une tradition de pornographie élémentaire du niveau de la chanson de Cordegarde. Où le bon amant est celui qui fait l'amour 14 fois par nuit. Toutes les femmes savent que c'est exactement le contraire. Alors, cette pédagogie-là, élémentaire, enfin, si on croit que ça se limite à ça, évidemment, on se condamne à une vie amoureuse totalement sèche et stérile. Par exemple, aucun homme ne sait ce que c'est qu'un clitoris. Je le dis très, très crûment, mais il faut bien le dire, et l'usage indispensable qu'il peut avoir à l'amour. Et si vous lisez toute la littérature masculine, comme ça, de Cordegarde et autres, vous n'entendrez jamais parler de ça. Le bon amant, c'est le fouteur. C'est celui qui fout 14 fois par nuit. C'est exactement le contraire d'un bon amant.
Alors revenons justement, et là on entre dans ce que vous avez dit dans les mots et la chose. Le titre, le grand livre des petits mots inconvenants, est finalement le titre que vous aimez bien, parce que vous dites « la chose », c'est finalement un mot qui me va.
Oui,
C'est le narrateur qui dit ça.
Dire. Évidemment, c'est une allusion aux mots et aux choses de Michel Foucault. La chose elle-même, quand on utilise ce mot, faire la chose, indique assez, il me semble, toute la zone de ténèbres et d'obscurité qui enveloppe l'acte d'amour. Quand on l'approche, quand on est jeune, quand on est un jeune garçon, par exemple, les filles ne savent pas ça. À quel point le continent noir, à quel point le corps de la femme est un domaine extraordinairement mystérieux, inquiétant, voire un peu dangereux pour un garçon de 14-15 ans.
La chose dans notre monde.
Il sent en lui une poussée irrésistible pour cette chose-là, mais sans pouvoir, j'allais dire la pénétrer,
c'est pas encore,
sans même la nommer. Alors, le vocabulaire et la façon de parler de la chose est une des voies, je ne dis pas du tout que c'est la seule, loin de là, est une des voies d'apprivoiser ce trésor. Disons ce trésor, qui est le corps de l'autre. Alors pour le garçon, pour moi, c'est le corps de la femme. Ça peut être aussi le corps de notre garçon, peu importe, je ne fais aucune différence morale dans ce domaine. Mais disons qu'au départ, au lieu de partir comme le billet d'ouverture semblait le laisser entendre, d'une connaissance innée, d'une sorte d'amour qui serait décerné aux uns et interdit aux autres, nous partons tous d'une ignorance, il faut le dire, garçons et filles. Et les mots que nous utilisons, que nos ancêtres ont utilisés, que nous inventons encore aujourd'hui, ne sont qu'une des formes, parmi beaucoup d'autres, pour apprivoiser cet inconnu.
Et d'ailleurs, dans votre livre, le narrateur, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, il y a un narrateur fort charmant, un vieux monsieur, érudit, professeur à la retraite, qui écrit à la demande d'une jeune fille, en fait, d'une comédienne qui est responsable de films pornographiques, justement.
Elle fait du doublage.
Elle fait du doublage. Elle lui demande, effectivement, d'enrichir son vocabulaire, parce que...
Lequel est très limité dans ces films-là.
Lequel est limité dans les films. Mmh. Et donc, il y a comme ça une fiction qui se met en place de chapitre en chapitre, où vous passez en revue, et ce n'est pas exhaustif bien sûr, tout un lexique très riche concernant, d'une part, bon, l'acte d'amour lui-même, le corps féminin, le sexe masculin, l'homosexualité, la sodomie, la masturbation.
Et la notion de jouissance, qui est quand même très important parce que tout y conduit. Ouais. Tout conduit à ce qu'on appelle, puisque on va parler de mysticisme dans votre émission, tout conduit à l'extase, et là nous avons un mot qui est commun aux deux.
Alors, il y a effectivement une initiation aussi par étapes dans ce livre, finalement, ce côté pédagogique dont vous
parlez.
Ça
m'est arrivé, pardonnez-moi de vous interrompre, mais ça m'est vraiment arrivé. Une comédienne, une très agréable comédienne qui s'appelle Françoise Dorner, les comédiennes ont dans leur vie des périodes sombres où il faut gagner un peu d'argent, a fait du doublage de films pornographiques il y a une dizaine d'années de ça, et un jour c'était... était venu me voir en se plaignant, en disant « Ah, que c'est triste, c'est toujours les trois ou quatre mêmes mots, ah, c'est bon, etc. » Enfin, chacun peut les imaginer. Et comme ça, mais par pur caprice, le lendemain, je lui ai envoyé une première lettre, puis une seconde, etc.
Et piqué
au jeu,
oui,
mais il y a eu une première édition de ce livre, mais très réduite, qui s'appelait « Les petits mots inconvenants », et aujourd'hui, c'est le grand livre, oui.
Alors,
doublé au moins de volume.
Justement, faire
pas
l'amour.
Complet, comme vous l'avez dit.
Oui. Faire l'amour, c'est vraiment la base d'un vocabulaire qui est extrêmement varié, d'un lexique extrêmement varié. Et ce lexique, finalement, vous l'avez trouvé à la fois dans la littérature, bon, Rabelais, La Fontaine, Mademoiselle de l'Espinasse, et puis également dans la rue.
Enfin, c'est un dans la rue, dans les bistrots, dans les cafés. Bien sûr, également dans le. Il y a. Bon, je ne prétends pas du tout être exhaustif, mais j'ai grandi dans un café, c'est vrai, populaire, à Montreuil-sous-Bois, où peut-être le goût de cette langue parlée m'est venu. Ensuite, en même temps, je faisais des études supérieures, comme on dit, normales supérieures, donc, pendant lesquelles on s'attache à des grands textes classiques, à commencer par Rabelais, bien entendu. Il faut rajouter à cela le langage étudiant, et un certain nombre d'argots et de langages de métier, par exemple le langage médical, qu'on n'entend pas forcément dans les bistrots. Et alors j'ai essayé de faire...
Il y a tous les artisans qui passent.
Les artisans, et puis alors il y a les artisans, il y a le langage paysan, les métaphores paysannes ou agrestes, si vous voulez, d'autrefois qui ont tendance à se raréfier. Hein, les semis de printemps, le petit jardin, arroser son jardin, tout cela fait partie d'une culture qui va s'évanouissant. Et puis également la vie des mots. Vous savez que le mot le plus couramment utilisé aujourd'hui, qui est le mot baiser, n'a pas toujours voulu dire ça. Autrefois, on utilisait beaucoup plus couramment le mot foutre. Vous savez que dans Molière, Thomas Diafoirus demande à son père « baiserai-je papa ?» En parlant de la jeune fille à qui il est présenté, ça veut dire « lui baiserai-je la main ».
Bien sûr.
Le mot « baiser » par un destin étrange ne prend le sens qu'il a aujourd'hui que vers la fin du XVIIIe siècle.
Il y a aussi des corporations qui sont très présentes, il y a les marins et il y a les soldats.
Parce
qu'évidemment, il y a le vocabulaire guerrier
paysans,
qui double le vocabulaire
soldats,
amoureux.
Les cuisiniers, et ça peut-être on aura l'occasion d'en reparler avec Sophie Bobet, et tout ce qui est marmitonnage et casserole, bien entendu. Ça c'est très... parce qu'il y a quelque chose dans le plaisir d'amour qui, d'une certaine manière, rappelle, je ne dis pas qu'il est proche, mais rappelle le plaisir de la table, le plaisir de manger et de boire. Il y a quelque chose de très sensuel au vrai sens du mot, c'est-à-dire en rapport avec nos sens.
Alors, il y en a que vous aimez plus que d'autres.
Que mon personnage aime plus que d'autres.
Enfin, le narrateur.
Nous sommes très proches. C'est-à-dire, de son métier, il est professeur de vocabulaire, Il est l'auteur ancien d'une thèse sur l'évolution du vocabulaire érotique en France. Donc il doit tout dire, y compris les choses qu'il n'aime pas du tout. Vous citiez le couloir aux lentilles tout à l'heure, c'est pas une chose dont il raffole, vous voyez.
Le couloir aux lentilles, ça c'est pour désigner la sodomisation.
La sodomisation, oui. Il préfère, par exemple, pour dire le cul, il préfère dire le président, par exemple, qui est une chose plus, pour lui, plus drôle, plus noble. Enfin, il en a des pages et des pages, hein, des centaines. Mais je suis assez d'accord avec lui. Mais il est obligé de tout donner, y compris les mots qu'il n'aime pas. Il ne fait pas de sélection, simplement.
Il n'y a pas de sélection morale, il n'y a pas de hiérarchie.
Oui, il se permet dans ses lettres de dire ce mot-là me ravit, m'enchante. Il a d'ailleurs une prédilection pour, vous l'avez peut-être remarqué, pour l'expression à tendance mystique.
Oui, alors justement, ça c'est important parce que le vocabulaire religieux infiltre ce vocabulaire amoureux.
Oui, d'abord, il y a les textes religieux et les maîtres confesseurs, par exemple le père Biluard, le père Sanchez ou d'autres.
Les jésuites.
Le monseigneur Bouvier, qui ne sont pas forcément des jésuites, mais qui sont ceux qui doivent connaître ce langage, ont eux-mêmes des mots pour parler de la chose. Hein, il parle du membre, il parle du vase en ce qui concerne le sexe féminin, et le vase légitime et le vase illégitime. Et le mot qu'il emploie le plus souvent, c'est la fornication, qui est un mot relativement élégant sous leur plume, croit-il. Donc, mais en utilisant le vocabulaire, alors je ne parle plus des religieux maintenant, mais de ceux qui se sont servis du vocabulaire religieux, ils l'ont complètement déformé jusqu'au blasphème, il faut bien le dire. Mais il y a même quelques expressions de haute mystique. Par exemple, pour une femme qui jouit, on peut dire « elle est allée dire bonjour aux anges ». Ce qui est
très
tout de
beau,
même
ça.
Absolument admirable.
Oui, célébrer la messe du soir aussi pour l'acte d'amour.
Oui, il y a l'oratoire, il y a bien entendu le prie-Dieu dans les positions. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai plus mémoire maintenant. Il faudrait que je prenne le livre et que je le relise.
Oui, les poètes baroques sont mis à contribution justement aussi dans un registre qui est intéressant.
Ben, forcément, parce que nous avons en France une immense tradition de poésie baroque, priapique, satirique, libertine au sens noble du mot, qui a été, à partir de 1660, totalement étouffé par le classicisme français. Et étouffé, au vrai sens du mot, et même, quelquefois, brûlé. Poète comme Claude Le Petit, par exemple, poète libertin, a été brûlé au XVIIe siècle en place de grève. Ces poètes-là ne sont plus réédités. Il est extrêmement difficile de trouver des exemplaires des poésies de Marbeuf, de Chassinier, de Martial de Brief, enfin de poètes dont je raffole, car ils sont vraiment... ça va de la fin du XVIe siècle à la moitié du XVIIe. C'est exactement l'époque de la poésie élisabéthaine. Quelque chose se passe à ce moment-là, pas seulement en France. Et parmi eux, chez Jodel, chez Dassoucy, en fait, tout, il y en a des quantités, et même certains qui sont plus connus, comme Scarron, comme Saint-Amand, comme Théophile de Viau, il y a des expressions absolument admirables et qui, je pense, correspondaient chez eux à un goût, ça c'est évident, à un goût de la chose, mais par-dessus et au-delà du goût de la chose, à une vraie passion des mots.
Oui, une passion de jouer avec le mot, du
parler, oui. de l'expression.
Et une cohabitation, entre le grossier, le vulgaire et le sublime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation dans les registres aussi. On va de l'un à l'autre dans votre livre.
Aucune séparation, comme c'est le cas dans Rabelais, déjà, qui est quand même leur maître à tous. Il y a, on pourrait même dire que la substantifique moelle de Rabelais n'existerait pas sans la roture de la langue. Sans cette langue qui est baignée dans tout ce que on traitera plus tard d'ordure et de fumier.
Oui, alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce livre. Je pense que le narrateur et que vous en avez été conscient. C'est tout de même qu'on est dans un registre qui peut être ou pathétique, ou nostalgique, ou amusant, ou poétique, souvent, avec la métaphore, bien sûr, les comparaisons, mais aussi dans un registre qui est du côté du sexe masculin, agressif. C'est-à-dire que très souvent, le sexe masculin est assimilé à une arme, il y a le lasso,
il y a un jabot,
etc. Il y a quelque chose comme ça qui... Et l'on fait jouir l'autre, c'est-à-dire le corps de la femme.
Oui, ça c'est un peu... Il faut se méfier un peu de cette tradition du corps de garde. Ce que j'appelais tout à l'heure la chanson de corps de garde, qui est l'amour à la hussarde.
Ça va jusqu'à exécuter une fille.
Exécuter une fille.
Vous dites Saint-Germain en 1950.
Au lendemain de la guerre, on disait ça, oui. Dans les années... au début des années 50. Exécuter une fille.
Jusqu'à tuer l'autre.
Oui, jusqu'à tuer l'autre. Alors, ça fait partie de tous ces... Il faut dire une chose, même un peu plus large que ce que je disais jusqu'à maintenant. Les mots et la chose, ça semble indiquer, et ça, pour moi, très clairement, que quels que soient les mots, ils ne seront jamais la chose. C'est-à-dire que si
on n'épuise pas
longtemps que nous en parlerons, écrire 40 dictionnaires sur la chose, ça ne vaut pas bien la faire une fois. La chose triomphera toujours des mots. Les mots ne sont qu'une espèce de, ne sont qu'une espèce de ronde comme ça, de plus en plus effrénée, où tout est dit, tout est exprimé, de l'exécuté qui est le plus trivial au bonjour aux anges qui est le plus angélique, qui est le plus céleste, en sachant très bien, et c'est le cas de ce personnage, le personnage dont je parle, ce n'est pas pour rien que je l'ai mis vivant seul, vivant à la retraite, au milieu de ses papiers et de ses notes, mais sachant très bien que depuis longtemps il n'a pas fait l'amour et que jamais plus il ne le fera. Donc, est-ce que les mots peuvent t'aider à la chose, la remplacer, bien sûr, jamais.
Oui, il y a une ivresse de la nomenclature.
Il y a une ivresse de la nomenclature, mais qui n'est pas l'ivresse,
l'ivresse
simplement
en soi.
Physique, oui. L'ivresse de la jouissance proprement dite physique, qui, chacun sait, est non seulement irremplaçable, mais je crois indescriptible. Et j'aime beaucoup cette... c'est peut-être la seule part de divinité que nous avons en nous. C'est pour ça que nous avons parlé des mystiques. Elle se révèle à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolu dans la recherche du vocabulaire pornographique, disons-le. D'absolu parce que ce vocabulaire-là, quels que soient ses efforts et sa richesse, son ampleur, qui est tout à fait extraordinaire dans la langue française, c'est que l'effort qu'il fait est au départ condamné.
Il y a un ineffable.
Oui, il y a un ineffable. Il y a un indicible.
Oui. Alors, cet ineffable, vous tentez quand même de le circonscrire. En particulier, il y a, et c'est là où on voit bien aussi les différences dans la richesse du lexique concernant le sexe masculin d'une part et le sexe féminin. Le sexe masculin, bon, il y a deux chapitres, ne serait-ce que parce qu'il y a deux parties, si j'ose dire, qui sont bien développées.
On appelle d'ailleurs les parties.
Les parties. La verge d'une part, les testicules de l'autre. Et là, effectivement, alors, il y a toute une richesse du vocabulaire. Et puis, il y a un chapitre consacré au sexe de la femme, qui il y a des très, très jolies images, hein, le touffu en ermitage, l'objet, la fente, la boîte aux rêves, l'âtre et la cité d'amour que vous aimez particulièrement, le semis du printemps, la frite, le bossu, etc.
Sadiné, qui est un vieux
mot très joli. Oui, c'est très joli, ça. Aussi, oui. Et puis, le clitoris auquel vous faisiez le bouton d'amour, mais alors là, c'est très, effectivement, c'est quelque chose qui passe
très peu de mots. Très, très peu de mots pour l'indiquer, comme si c'était lui qui est tellement à l'évidence, si j'ose dire, puisqu'il est au centre, il est au milieu, mais il y a très, très peu de mots pour le désigner, comme si on n'osait pas en parler. De lui qui est si essentiel au plaisir et non pas, bien entendu, à la fécondation.
Peut-être parce qu'il est indépendant de la fécondation.
On a quand même Diderot a écrit des textes là-dessus. Sur, je n'ose pas me lancer dans une dissertation médico-artistique parce que je ne m'en sens pas capable. Et dans ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à ces parties-là, si vous voulez, vous avez désigné la verge, les testicules et le sexe féminin, il faut ajouter une partie commune qui est le cul quand même. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, le cul est très important en français. Là, il y a aussi une richesse.
Extraordinaire. Oui, oui. Et là, les deux mots peuvent, tous les mots peuvent s'appliquer aussi bien au cul de la femme qu'à celui de l'homme, qui, à mon avis, ont le même usage dans le domaine amoureux.
Oui, il y a le bijou aussi qui s'applique aussi bien
au sexe féminin qu'au sexe, à l'autre, à la petite porte de derrière, comme disent les Chinois.
Oui, la petite porte de derrière ou l'annexe.
L'annexe qu'on peut utiliser. Oui. Alors, dans certains mots, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, le président. Ça paraît plutôt masculin, hein. Le prose aussi. On dirait pas le prose d'une femme, ni le président. Pour d'autres, ils sont absolument communs. Il faut bien reconnaître que dans le domaine d'amour, dans la terre d'amour, nous avons des mots en commun pour désigner certaines parties de notre corps. Je trouve ça très beau. C'est un des rares domaines.
Oui, mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a, du côté du masculin, tout de même des expressions qui montrent que lorsque le sexe est triomphant, alors il y a ces métaphores agressives et qui sont militaires et joyeuses et conquérantes, mais alors, lorsque le sexe masculin est en panne, si j'ose dire, tout d'un coup, le vocabulaire se met à être ironique et auto-ironique. Il y a une espèce de dérision
terrible,
d'un coup, il n'existe plus. Et c'est terrifiant, là.
Il me semble que...
Ça va du plus amusant, les patates au fond du filet, bon, ça
de toute façon... C'est Jean Carmé, ça.
Voilà. et ça devient terrifiant parce que là, on n'est plus un homme.
Oui, il y a la virgule, il y a tout un tas de mots. Je crois même que...
C'est terrible.
À bien y réfléchir et... même en cherchant dans les auteurs qui ont le plus violemment écrit, qui sont allés très très loin dans cette recherche de langage, les hommes sont plus cruels pour eux-mêmes que pour la femme. Jamais ils n'ont osé imaginer, à supposer que ce soit des hommes qui inventent les mots, ce serait à discuter, mais jamais le langage érotique n'a imaginé des choses aussi horribles pour les seins des femmes que pour les hommes. C'est effrayant ce qui a pu être dit des testicules pendantes et inutiles.
Oui, et... De l'autre côté, tout de même aussi, lorsque la femme aime jouir, lorsqu'elle aime ça, il y a tout
elle
de même...
Elle aime toujours seulement.
Oui, oui, mais il y a des moments où le vocabulaire, bon, alors là, ça devient une dévoratrice et puis alors une salope. Enfin, là, il y a quelque chose qui est à la fois, bon, on aime bien qu'elle aime, mais pas trop. Enfin,
là,
elle devient dangereuse.
On déborde un tout petit peu le domaine du vocabulaire pour rentrer dans le domaine des mœurs et de la morale.
Absolument,
c'est-à-dire
oui,
que,
oui.
Comme le chantait Jeanne Moreau, les femmes, elles aiment les hommes à femmes, les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Alors, et c'est toujours le grand mystère. On aime une femme qui soit attirante, séduisante, mais on la voudrait pour soi-même, c'est en soi une contradiction. Car si elle est attirante pour soi, elle est aussi pour d'autres hommes. Si on aime en elle sa légèreté, sa disponibilité, voire un début de perversion, il faut admettre qu'elle a d'autres hommes que nous.
C'est
cette contradiction, elle est très ancienne et on la retrouve
oui,
à tous les échelons de l'aventure
amoureuse. Et du lexique.
Oui,
et la jouissance, à ce moment-là, va jusqu'à une forme de souffrance. Il y a des très belles expressions que vous aimez, que le narrateur aime, qui est la peine qui n'en est pas une, la fausse souffrance.
Je suis content que vous les ayez relevées parce que c'est ce que je
préfère. Elles sont très belles. Ouais. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a l'impression que la femme monte au septième ciel et peut-être que l'homme reste en enfer. Ou est-ce que c'est moi qui me trompe? Il y a quand même cette espèce de lien entre le ciel et l'enfer permanent, et c'est la femme qui va au septième ciel. L'homme est dans la tempête.
Oui, on est toujours dans le vocabulaire religieux. On est toujours soit au septième ciel, soit en enfer. Et d'ailleurs, ce livre, il finira dans l'enfer de quelques bibliothèques. Mais c'est vrai que il y a une vieille histoire indienne que je ne raconte pas dans ce livre, qui raconte l'histoire, je vous l'ai dit en deux mots, d'un roi qui, pour une faute que j'ignore, a été puni par les dieux et a été transformé en femme. Il a été chassé de son royaume, il est allé vivre dans la forêt où il a rencontré un beau bûcheron avec qui il a fait couple, ils ont commencé à faire l'amour, il a eu des enfants. Et puis quand sa pénitence a été terminée, on l'a ramené au palais, il est redevenu le roi. À ce moment-là, en Inde, rien n'est plus important que la connaissance. Donc tous les sages de l'Inde se sont réunis dans la cour du palais, car cet homme-femme, était le seul à pouvoir répondre à une question qui n'avait pas de réponse. La question était, qui, dans l'acte d'amour, a le plus de plaisir? Est-ce l'homme ou la femme? Il était le seul à pouvoir le dire. Et il a répondu sans l'ombre d'une hésitation, c'est la femme, et de très très loin. Aussitôt d'ailleurs, les dieux lui ont rendu son apparence féminine et on dit qu'il est reparti dans les bois.
Mais c'est une très jolie histoire qui va directement nous conduire à Sophie Bobet, où là nous allons voir comment est-ce que dans certains registres, la femme risque d'être chassée et d'être mangée. Sophie Bobet, vous venez d'entendre cette jolie légende indienne racontée par notre ami Jean-Claude Carrière. C'est l'ethnologue qui parle en vous lorsque vous avez décidé de voir comment est-ce que la femme était mangée et cuite par rapport à l'homme qui n'est jamais cuit. Comment est-ce que vous êtes arrivé à là? Comment est-ce qu'on passe de la chasse et de la quête de l'ours dans les montagnes des Pyrénées pour en arriver là?
D'une part, je pense que il faut bien qu'effectivement je sois de formation ethnologique, il faut quand même ne pas oublier que je suis une femme et que donc dans les études que je peux faire, le filtre qui me permet d'analyser ou de décrypter est celui d'une femme. Il est probable que si un homme s'était rendu dans ces fêtes de l'ours, il n'y aurait pas vu le même jeu. D'une part parce que les ours poursuivent les femmes et que ce sont les femmes qui se font attraper et avec lesquelles on simule une copulation. Donc, être passée dans les mains, dans les pattes de l'ours, en tant que femme, m'a probablement permis de saisir, de comprendre, ou tout du moins de sentir ce qu'on pouvait vouloir dire par une telle pratique. Par rapport au travail que j'ai fait sur les métaphores de la langue française, je pense effectivement que j'avais envie de savoir comment... L'idée de départ était les clichés qu'on retrouve dans la langue française concernant les Français, à savoir que ils sont de bons amants, de fins gourmets et de forts en gueule. Je voulais savoir si ces clichés étaient transmis par la langue. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de réfléchir sur les différentes métaphores qui mettent en scène des rapports hommes-femmes. Et il se trouve que j'ai choisi de faire un lien entre le domaine de la parole et le domaine de la cuisine. Alors, pourquoi la cuisine? Bon, d'abord parce qu'en France, on ne peut pas ne pas en parler. Enfin, je veux dire, c'est sans arrêt.
C'est une culture.
Voilà, absolument. D'autre part, parce que la cuisine est un domaine très investi d'affectivité. Et qu'en plus, elle a une place de... Enfin, on y retrouve une ritualisation très importante. Alors, les mettre, les juxtaposer, essayer de trouver des corrélations entre ces deux domaines, partait de l'idée que tous les deux relèvent du domaine de l'oralité et que donc ils ont forcément quelque chose à voir ensemble.
Le domaine de l'oralité, on n'en a pas parlé avec Jean-Claude Carrière, mais il existe aussi dans son livre, hein, la fellation, le cunnilingus, bien
tout
sûr.
À fait,
alors ici, ça signifie que la femme, alors elle est cuisinée, on la fait revenir aux petits oignons, on la passe à la casserole.
Alors en fait, bon, la femme apparaît très vite dans ces métaphores comme un objet de consommation, ça c'est très clair. Mais elle n'est pas, on dit, j'ai faim de toi, tu es belle à croquer, j'en mangerai bien un morceau. Bon.
Tous les morceaux sont bon.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne la mange pas n'importe comment. Et je me suis demandé, est-ce qu'effectivement il fallait la cuisiner? Est-ce qu'il fallait la préparer? Comment ça se passait? Alors, de ce point de vue-là, il apparaît très clairement que la femme doit être dans certaines dispositions. C'est-à-dire que si elle n'est pas déjà chaude, si elle n'est pas à point, c'est le travail de l'homme, par tout un jeu de séduction, des techniques d'approche,
faut la préparer.
De la préparer, absolument. Donc, il va essayer, par l'arme des mots, de s'approcher d'elle pour pouvoir ensuite, avec son arme blanche ou son fusil, pouvoir... effectivement, la posséder. Voilà.
Son doux poignard.
Son poignard de velours.
Oui, c'est ça.
Très beau.
Ouais.
On dit effectivement que l'on doit faire du plat, que l'on doit la chauffer de façon à ce qu'elle soit à point et qu'elle puisse passer à la casserole.
Ouais.
Donc.
Il y a plusieurs phases.
Voilà, il y a plusieurs phases.
On l'assaisonne aussi.
Voilà, voilà. Et tant qu'elle n'est pas à point, tant que ce n'est pas cuit, c'est du tout cuit, à ce moment-là, bon, elle n'est pas. Elle ne peut pas être approchée.
Ça veut dire qu'il y a un rite. D'apprivoisement là-dedans. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu, vous l'avez dit, Jean-Claude Carrière, en début, c'est-à-dire qu'on apprivoise quelque chose qui est sauvage.
Je pense qu'il y a cette idée-là, et je pense qu'il y a surtout le fait que même le rapport amoureux est fortement marqué de techniques, de pratiques, de manières de faire, et que l'on n'agit pas n'importe comment. La femme, d'une certaine façon, est un objet de consommation culturalisé, et de la même façon que dans la cuisine, il y a des règles, des codes, dans la pratique de l'approche de la femme, on retrouve également...
une ritualisation.
Voilà, une forme de ritualisation.
Est-ce qu'il y aurait, dans la cuisine, on sait que le rapport avec ce qu'on mange est fait aussi du fait que ce que l'on mange va devenir soi. On va s'approprier, on va devenir ce que l'on mange. Est-ce qu'il y a aussi, dans le rapport amoureux, selon vous, un désir de devenir la femme que l'on va...
Se l'incorporer.
Ce qui est très clair, c'est que cet objet de consommation, on le possède par ingestion. Ça, c'est de toute évidence. De là à dire qu'effectivement, c'est une façon de s'approprier des attributs féminins, bon, je peux le penser, mais en tout cas, ce qui est très clair,
la substance féminine.
C'est que l'étude que j'ai faite ne l'a pas révélée. Mais je pense que ça peut tout à fait se concevoir. Mais peut-être que c'est plutôt vous, en tant que membre de la gente masculine, qui pourriez répondre.
En tant que course.
et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que la femme ne prépare pas son homme ou l'homme et ne le cuit pas petits oignons. Il n'y a pas ça.
C'est-à-dire que dans l'approche amoureuse de l'homme par de la femme par l'homme. Elle est toujours pensée en termes de chasse. Toujours.
Gibier, oui.
De gibier, voilà, on est un gibier, on est un gibier à plumes en général, on est une poule, une caille.
Avant de devenir un gibier à poils.
Exactement. on est rarement un légume, donc on est plutôt du carnet. Par contre, quand c'est effectivement la femme qui entreprend de séduire un homme, elle n'a pas du tout recours aux mêmes pratiques qui seraient donc la chasse, mais bien plutôt une pratique de pêche. Par exemple, on va dire qu'elle va attraper l'homme dans ses filets. Et ce qui est assez amusant, c'est que je me demandais si on ne pourrait pas considérer qu'elle remplace la force, l'adresse et la précision utilisées par l'homme par la ruse. Et la séduction peut-être, enfin, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séduction dans l'entreprise que l'homme peut faire vis-à-vis d'une femme, mais on retrouve par exemple en grec l'expression construire une ruse hein, équivaut à tisser ses filets. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien très net entre l'idée de ruser dont a besoin la femme par rapport à tirer pour posséder une femme des pratiques de chasse qu'on ne retrouve pas du tout dans les métaphores utilisées par les femmes.
Et l'homme reste cru, de toute façon.
Et l'homme reste cru, oui, oui. Il n'y a pas du tout besoin de le chauffer, de le préparer, de le cuisiner, de l'humidifier.
Il est tout prêt. Il est prêt à l'emploi.
Et alors, vous savez, c'est très drôle. Parce que moi, je me souviens...
Il faut le dessaler, quelquefois.
Et alors, par contre, effectivement, on dit d'une femme dessalée, en fait, c'est une femme qui n'est plus vierge.
Oui.
Donc, mais ce qui est très net, c'est que... Bon, je me souviens de m'être fait raconter un cours d'éducation sexuelle reçu par une de mes amies dans une école religieuse. Et elle me racontait qu'on lui disait « L'homme est une lance, la femme est une amphore. Bon, la femme est faite pour recevoir et l'homme pour donner. » Donc, je veux dire, il y a toujours cette idée-là. Effectivement, l'homme, à la limite, est toujours disponible pour être pris ou en tout cas pour qu'on lui donne quelque chose. Mais on n'a jamais besoin de le posséder, de le prendre, d'aller le chercher. Il n'y a pas cette quête qu'on peut retrouver dans le discours métaphorique utilisé par les hommes, par exemple.
Oui, et là, vous disiez que la femme est toujours du côté du carnet et rarement un légume, alors qu'effectivement, les métaphores du sexe masculin, il y a beaucoup de métaphores qui ont trait au végétal, au légume. Et les femmes, en revanche, le sexe féminin est aussi associé aux fruits. Enfin, c'est très joli. Tous les fruits, la figue, l'abricot, etc. Donc, des fruits qui viennent aussi du bassin méditerranéen, très souvent.
Pourquoi on dit d'une femme qui a perdu sa virginité qu'elle a vu péter le loup? Je me suis souvent demandé, vous connaissez cette expression,
oui,
elle est très répandue.
Tout à fait.
À quoi ça peut tenir égal? Parce que là, le loup est un gibier, il est aussi un chasseur d'une certaine façon. Elle a vu péter le loup. L'expression est restée, comme il arrive quelquefois.
Elle sent le Moyen-Âge, en tout cas. Elle sent le Moyen-Âge, elle sent la chasse, effectivement. Eh bien, je vous invite l'un et l'autre, puisque là, on vient de parler de chasse, de cuisine, de la culture tout à l'heure gauloise et française, à faire un tour du monde et à nous transporter en Orient. Tout à l'heure, on a parlé de cette fameuse légende indienne. On va entendre Jemaleddin Benchir. Je suis sûre que l'un et l'autre, vous réagirez à ses propos. Il est enseignant en littérature médiévale arabe à la Sorbonne. Et il nous rappelle une chose très importante, c'est que parler d'érotisme, c'est se mettre sous la protection des démons. Et c'est en quelque sorte se mettre sous la protection de la nuit. On ne peut parler d'érotisme que pendant la nuit, parce que pendant le jour, les anges veillent et nous empêchent d'en parler.
وهو حظ رفيع ودرجة عالية وسعد طالع بل هو الحياة المجددة والسرور الدائم ورحمة من الله عظيمة ولولا أن الدنيا دار ممر ومحنة وكدر والجنة دار جزاء وأمان من المكاره لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر فيه والفرح الذي لا شائب فيه ولا حزن معه وكمال الأمان ومنتهى الأراجي. ابن حزم décrit là l'union des amants comme étant le degré le plus élevé de la jouissance, comme étant surtout une sorte de béatitude à quoi atteignent les amants lorsqu'ils s'unissent. L'érotisme appartient à la nuit. C'est là qu'il peut surgir, au moment où la raison n'établit plus sa loi, au moment où les anges du Seigneur, les anges gardiens que le Seigneur envoie pour nous préserver des dangers, sont au repos auprès de lui, et que les démons envahissent la terre. Vous savez, dans les Mille et une nuits, plusieurs contes commencent par un dialogue de démons. Par conséquent, il faut parler de l'amour et de l'érotisme la nuit, pas le jour. Dès les poèmes, les grands poèmes, les odes suspendues, comme on les appelle, les mu'allaqat du pré-islam, on trouve des représentations du corps de la femme très précises, très libres. Dans cette société tribale de l'avant-islam, les hommes et les femmes se côtoyaient beaucoup plus facilement qu'ils n'ont pu le faire par la suite. Et trois ou quatre des grandes odes de la poésie anté-islamique donnent ces représentations du corps. Et elles sont vivantes parce qu'elles sont prises dans le réel. Les poètes et les jeunes filles s'assemblaient, on récitait des poèmes, on buvait, et elles circulaient librement parmi les poètes. Et il y a, par exemple, dans l'ode suspendue de Tarafa, une scène très belle où les commensaux sont assis, boivent, récitent des poèmes, et où une belle jeune fille les serre. Elle passe de l'un à l'autre, et au moment où elle passe devant Tarafa, le poète, tout en parlant avec elle, en admirant son cou, ses cheveux, sa taille, sa croupe, il passe la main dans l'échancrure de sa robe, et il touche son sein sans que cela introduise aucune espèce de geste déplacé. C'est naturellement que cela se fait. Le contact est là. Et la jeune fille ne s'offusque pas. C'est une espèce d'hommage rendu à la beauté.
Oui, et cette représentation du corps féminin passe alors par la métaphore essentiellement.
Pas encore. Là, elle est encore assez directe. Elle passe surtout par les comparaisons. Des cheveux, du cou, de la démarche, avec des éléments de l'écologie naturelle, de l'environnement. Il y a notamment une image qui s'est imposée peu à peu, n'est pas toujours présente, mais une image, c'est celle de la croupe qui est si lourde qu'elle fait vaciller la taille et qui est comparée à une branche, alors que la croupe est comparée à une dune de sable qui s'arrondit et qui a un mouvement d'ondulation comme les dunes de sable sous le vent. Lorsque la jeune fille s'assoit ou se lève, il y a une espèce de vibration de tout le corps qui s'organise autour de la lourdeur de cette croupe. Un peu plus tard, on introduira des matières plus précieuses. On introduira l'ivoire, par exemple, pour comparer à la fois la consistance de la chair et son brillant, cette espèce de reflet intérieur qui fait vivre l'ivoire tant qu'il est vivant. On utilisera cette image pour comparer les corps. Mais chez les poètes bédouins, l'image est encore très proche de l'environnement et se nourrit des images de la nature.
Et il n'y a pas de culpabilité, là?
Aucune. Je n'emploierai pas le mot païen parce que ça introduirait une catégorie qui est étrangère à la culture arabe, mais il y a une liberté, un plaisir librement exprimé et librement accepté, et vigoureusement. Dans la grande ode suspendue d'Imr al-Qais, qui est un prince, l'amant, qui est le poète, donc, arrive à s'introduire sans être vu dans le palanquin de la jeune fille, c'est-à-dire dans cette espèce de construction sur le dos d'un chameau qui transporte la jeune fille, malgré elle. Mais elle ne peut pas protester parce que toute la caravane est là autour et elle se tait. Et il la prend dans ce palanquin, et de l'extérieur, on ne voit que le palanquin qui est agité de mouvements qui paraissent curieux aux gens sans qu'ils puissent deviner la raison. Il l'attribue à une espèce de nervosité particulière de la jeune fille. Alors qu'en réalité, tous les mouvements du verre et toutes les images montrent bien ce qui est en train de se passer dans le palanquin. Bien. Alors vous avez plusieurs poèmes comme cela de la période anté-islamique, où la sensation amoureuse est très proche de l'ivresse bachique. On boit, on s'enivre, il y a une ivresse qui s'empare de vous et on se met à admirer particulièrement le corps de la femme.
Alors les choses vont un petit peu changer lorsque l'islam va venir. Et là, tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas encore la métaphore. On va à ce moment-là avoir recours à la métaphore par obligation en quelque sorte.
Oui. La théologie va, pas immédiatement, mais va bientôt, 2 siècles après l'instauration de l'islam, s'occuper de la passion. Ce n'est pas les théologiens qui ont fini de construire la culture, d'établir les savoirs, d'établir la relation entre les savoirs, c'est-à-dire l'épistémologie, vont s'apercevoir que dans la cité, il y a un espace de trouble. Cet espace de trouble, c'est la passion. Et ils vont se mettre à disserter, admirablement d'ailleurs, sur la passion. Et la cité elle-même va entrer en surveillance. Et alors là, une autre tradition d'érotisme va s'établir. On va rentrer en métaphore. On va procéder à ce transfert de l'image. Et on va inventer un langage à déchiffrer. C'est-à-dire qu'en surface, le poème reste parfaitement banal, anodin, alors qu'une étude attentive montre que par toutes sortes de signes que la représentation amoureuse est très au fond du poème. Et c'est d'ailleurs doublement beau. C'est beau en soi, que cette représentation du corps qui se cache, mais c'est aussi beau parce qu'il faut pénétrer dans le poème et que la compréhension du poème est mimétique. Elle représente exactement
le corps féminin.
La pénétration du corps féminin.
Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que l'érotisme, finalement, n'est pas dissocié de la connaissance ?
Non seulement l'érotisme n'est pas dissocié de la connaissance, mais ce cheminement que je vous décrivais va être réutilisé par les mystiques pour décrire l'effort que fait le mystique pour atteindre l'essence de Dieu, pour se libérer de son écorce charnelle et arriver à se fondre dans l'essence divine. Et là, le débat va ressurgir, parce que les théologiens vont s'apercevoir aussi de cela, de ce que le mouvement d'amour vers Dieu vient en réalité d'un mouvement d'amour vers la femme, ou vers l'homme, parce qu'il y a de l'homosexualité chez les Arabes, et beaucoup. Et ils vont violemment condamner les deux, c'est-à-dire que les théologiens orthodoxes vont condamner ce mouvement d'amour.
La brûlure,
c'est exactement. La brûlure, la flamme, l'une des isotopies lexicales de l'amour chez les Arabes touche à la brûlure. Il y en a 3 grandes. Le vocabulaire amoureux se répartit principalement, simplifiant, en 3 grandes isotopies, et toute l'isotopie de la brûlure. C'est-à-dire de la flamme qui vous consume et vous transforme en l'autre. C'est cela que cette première isotopie lexicale arabe exprime, c'est la brûlure qui vous consume et qui ne vous laisse jamais revenir à vous, qui vous laisse là-bas, dans ce lieu unique, c'est-à-dire au profond du corps de la femme, d'où on ne voudrait jamais revenir. Voilà la première isotopie, et qui est très belle, et qui entraîne notamment toute la description des étapes vers la consumption finale, et qui sont en réalité les étapes du corps de la femme. La deuxième isotopie, c'est l'égarement. C'est sortir du chemin. Tous les noms de l'amour arabe sont issus de ce lexique-là, de l'égarement. On quitte le chemin, on se perd, on entre en perdition avec les mots mêmes qui exprimaient l'errance, la divagation dans le désert. Eh bien, on rentre en territoire inconnu, où il n'y a plus de source, où il n'y a plus de chemin marqué, où plus rien n'est balisé, sauf cette espérance de trouver au bout de cette route inconnue, de cet espace non déchiffré, de trouver le lieu où tout reprend sa signification. Et le troisième, c'est l'attachement absolu. Il y a un des mots arabes qui est « ishq », qui désigne dans certaines régions le lierre et dans d'autres régions le liseron. C'est cette plante qui naît, qui monte, et qui envahit peu à peu tout l'espace qui lui est offert pour à la fois le posséder, le protéger, ne faire plus qu'un corps avec lui. Mais pour en revenir à la représentation du corps, il y a un point sur lequel il faut revenir. En dehors des poncifs, vous savez, de la femme arabe, les grands yeux, la croupe lourde, il y a tout de même une caractéristique qui me semble importante à rappeler. les seins d'ivoire, tout cela, qui est assez banal quand on reprend les grandes productions érotiques, on retrouve à peu près les mêmes thèmes.
Oui, il y a un universalisme là. Mais il y a le sexe aussi qui est désigné.
Ah, mais écoutez, nous allons parler tout à l'heure des traités d'érotique. Alors vraiment des traités sur l'érotique. Vous savez que le sexe féminin a une, je crois, je suis en train de dénombrer, il y a une cinquantaine de mots désignant l'amour chez les Arabes, mais le sexe féminin a bien une quarantaine de désignations qui sont très belles.
Alors on va y venir, mais vous voulez terminer sur
oui, il y a une caractéristique de la représentation féminine telle qu'on la voit chez les Arabes. C'est une espèce de silhouette à la fois précise et imprécise qui me semble se caractériser par un trait, c'est celui de la virginité. Il faut en parler parce que la virginité est devenue une obsession en droit musulman. On la vérifie, on la jauge, on la pèse. Il y a une espèce d'obsession maladive de l'homme musulman concernant la virginité. Bah, vous savez, ça a fait l'objet de traités de droit, uniquement pour ce point de savoir comment, où, etc. En fait, c'est un détournement d'une image qui est très belle. Chez certains poètes arabes, la virginité n'est pas simplement la vérification d'une qualité physiologique, c'est un espace non encore franchi. C'est un lieu qui vous attend. Et la femme vierge est devenue l'image de l'amour rêvé, bah, celle que l'on rêve d'atteindre. Et de très nombreux poèmes reprennent cette idée de la femme vierge comme espace inconnu, espace à découvrir. Et cela a donné lieu à un autre courant de la poésie arabe qui est très beau. C'est l'amant qui s'interdit de toucher à l'amante uniquement pour maintenir intacte cette image qu'il a d'elle, pour la laisser entière. Et
c'est presque un courant courtois.
Exactement, ça touche à la courtoisie. Et ça n'est pas pour rien qu'on a pensé que peut-être la poésie courtoise chez les Provençaux du XIIe avait été touchée par la poésie andalouse. Mais je dois dire que la lecture des traités touchant à la sexualité sont beaucoup plus riches pour ce qui est du sexe de la femme que celui du sexe de l'homme.
Et ils apparaissent quand, ces traités ?
Ils se développent probablement à partir du IVe siècle et ils vont connaître une grande vogue parce qu'ils sont ou anonymes ou signés. Le plus célèbre d'entre eux est celui de Cheikh Nefzaoui. Et ce sont des traités,
je veux dire,
presque techniques, scientifiques. Alors on décrit les sexes, les sexes des hommes, on décrit toutes les postures du coït, on décrit tous les problèmes d'impuissance, on rentre en médecine, on donne les médicaments, on décrit les aphrodisiaques. Il y a là une investigation lexicale qui est intéressante et qui montre comment se sont accumulées par strates successives toutes les désignations du sexe de la femme, de l'homme aussi, mais enfin de la femme. On l'appelle le doux, le suave, le parfumé, l'épais, le gourmand, l'avide, le profond. Vous voyez, toutes les caractéristiques du sexe de la femme donnent lieu à une isotopie. Donc sa forme, sa consistance, sa profondeur, ses parfums, et puis toutes ses sources. La semence féminine est décrite avec tous ses parfums, toutes ses caractéristiques, son moelleux, son épaisseur, la vigueur de ses jaillissements. C'est très précis, c'est très beau. Et au bout d'un moment, ce texte qui se voulait technique et scientifique se met à vibrer parce que, à force de décrire, de rassembler ces adjectifs se mettent à être l'objet qu'ils sont en train de décrire et le livre n'est plus technique. Et vous savez où ça se vendait, ça se reproduisait, on les reproduisait sur des petits livres comme on les imprimait jadis à papier jaune et à couverture verte. Et devinez où l'on vendait les traités d'érotique. Aux portes des mosquées. dans les petites ruelles avoisinant la mosquée, dans les souks, il y avait toujours des librairies, et il y en a encore, où vous venez, vous commencez par demander des livres sérieux, puis vous demandez en baissant un petit peu la voix au libraire s'il n'a pas quelque ouvrage de plaisir. Et il comprend très bien ce que vous voulez dire. Il vous dit, tiens, j'en ai un dernier qui n'est pas mal. Et vous prenez cet ouvrage qui ne se différencie pas dans sa présentation extérieure ni dans ses pages des ouvrages sur les prophètes, des ouvrages sur le voyage nocturne de Mohammed ou d'un ouvrage de grammaire. Et vous emportez ça glissé entre un traité de morphologie et un traité de rituel de la prière. Et au cours d'une soirée, on les lit ensemble. Il y a des assemblées où on lit ces textes. Un des amis lit.
Des assemblées d'hommes.
Une assemblée d'hommes, bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a question de jouissance dans ce
oui,
côté aussi ?
Oui, bien sûr, il y a tout un vocabulaire de la jouissance. Il y a un mot qui a fait fortune et qui a été aussi l'objet de contestations. Vous savez, avant de prendre le pouvoir sur une cité, une idéologie prend un pouvoir sur la langue, Ricoeur a raison. Se battre autour de la métaphore, c'est se battre autour du pouvoir. Le wasl, chez les Arabes, c'est l'union. Et ce mot a donné lieu à des chapitres entiers, aussi bien chez les théologiens que chez les poètes, que chez les mystiques. Pourquoi ? Parce que cette union peut être de différentes natures. Pour un théologien, il n'y a d'union véritable et profonde que l'union en Dieu. Mais pour les poètes et pour les grands érotiques, il n'y a d'union que dans cette fusion sexuelle de deux âmes. Sexe et âme ne se distinguent pas. Le corps est un tout. L'androgynie est enfin réalisée puisque les deux sexes se fondent l'un dans l'autre et que l'être humain entier est enfin là, unique, dans l'extase de la jouissance.
Toute cette tradition, finalement, est une tradition où le féminin, la femme, est l'objet de, l'inspiratrice de.
Oui.
Et il n'y a pas de femme qui ait écrit des textes érotiques, ou est-ce que ça existe ?
Si. Si. Dès l'avant-islam, les femmes ont dit des poèmes d'amour, et après l'islam, les grandes chanteuses de très haut niveau, c'est-à-dire les artistes qui étaient la propriété des califes ou des grands du palais, et ces femmes ont chanté l'amour et ont écrit des poèmes extrêmement libres. De la même façon qu'en Andalousie, il y a toute une tradition du chant féminin amoureux que nous avons gardé. Une femme peut chanter les délices de l'amour, les plaisirs de l'amour, mais elle n'investit pas le corps masculin de la même façon.
Dans Claude Carrière et Sophie Bebé, je vous voyais écouter attentivement notre ami Benchir. Je crois, Jean-Claude Carrière, que vous vous êtes intéressé à cette érotique et mystique, en particulier chez les Perses, qui vous intéresse.
J'ai travaillé plusieurs fois sur la littérature et la tradition iranienne, qui est une grande tradition érotique, elle aussi, comme la tradition arabe. Ils sont tout à fait comparables, sinon supérieurs à la nôtre. Il faudrait aussi parler de la tradition indienne. C'était très passionnant, ce qui vient de nous être dit. Ce que je voudrais, non pas rajouter, parce que c'est pas la peine, mais préciser peut-être, c'est que dans notre tradition mystique, puisque votre émission portait aussi ce titre, il est question que les chrétiens se dégagent totalement de ce monde, immédiatement. Ce monde est méprisable et se tournent directement vers Dieu. C'est-à-dire portent leur amour entier vers Dieu en oubliant le monde. C'est pas du tout la même chose en Orient. Ce monde-ci est porteur de l'amour de l'autre monde. C'est-à-dire que c'est en aimant quelqu'un dans ce monde-ci, et en choisissant bien son amour, bien entendu, que l'on a une chance d'atteindre l'amour de la divinité, de ce qu'on appelle la divinité. Autrement dit, quelqu'un qui aime quelque chose aime tout. C'est ça le principe beaucoup plus séduisant pour moi du mysticisme oriental.
Allah, 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 Allah,
catalangue de la tradition gauloise à la langue érotique, ou des ébats amoureux au débat des théologiens et des mystiques, une émission de Marie-Christine Navarro, mixage Monique Prat, réalisation Marie-France Nussbaum, avec Jean-Claude Carrière, auteur de « Les mots et la chose » paru au Pré-Auclair, Sophie Bobet, ethnologue, dont l'article de la table au lit fait partie d'un ouvrage collectif « Les figures du corps » paru chez Labétano, et Jemaleddine Benchir, spécialiste de littérature arabe médiévale.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 mars 1992 sur France Culture.